Tu parlais pas de géo-ingénierie, c'est-à-dire de changement du climat, de la planète, etc. Il y a quelque chose à l'échelle inférieure. Est-ce qu'on change la répartition des pluies en construisant des haies, ou en enlevant des haies, ou en ayant une ville, etc. Donc c'est une échelle intermédiaire.
Oui.
Non, ça c'est une modification d'inadvertance du
climat. Oui, alors les modifications inadvertantes, on en connaît un certain nombre. Hein. Par exemple, les bocages normands, quand on a coupé la doublée, etc., ça, avant ça empêchait les vents de venir perturber sur le sol, enfin, ça gardait, les sols pouvaient garder leur humidité. Aujourd'hui, on a l'humidité qui n'est plus retenue, enfin, parce que les vents ont tendance à la fois à balayer les sols et puis à enlever l'humidité. Aux États-Unis, par exemple, dans les. J'ai peur de dire une bêtise, il me semble que c'est dans les années 30, on a beaucoup labouré. Hein, aux États-Unis, c'est relativement plat, on a fait des labours. Et toutes les opérations que l'on a faites ont fait qu'à un moment donné, la terre n'était plus. Le sol n'était plus retenu. Et lorsqu'on avait des vents forts, eh bien, les vents forts enlevaient toute la terre à ras. Dans les années, je vous dis 30, j'ai peur de me tromper, mais peut-être que c'est 40, à New York, quelquefois, on voyait plus le ciel ou le soleil, parce qu'on voyait toute la terre qui partait dans l'océan. De la même façon, par exemple, je vous ai parlé de Jules Verne, mais proposait de construire des zones boisées. On a essayé de faire ça aussi dans certaines zones désertiques, de construire des zones boisées pour essayer de maintenir l'humidité. Le problème qui se passe, c'est qu'il faut que ces zones boisées soient extrêmement vastes. On ne peut pas garder l'humidité et empêcher le sol de partir et l'humidité de partir. Ça ne peut pas se faire sur de toutes petites zones. Là, il faut le faire sur des zones extrêmement vastes.
Oui, vous avez mentionné au début, là, ce qui a été fait par les Chinois au moment des Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Est-ce que vous savez les moyens qui ont été utilisés? Vous avez mentionné plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes envoyées à ça. Est-ce qu'on peut en tirer un bilan? Est-ce qu'ils ont publié ça? Et d'un autre côté, est-ce que, pour rejoindre un petit peu ce que vous venez de dire, je pense que s'il y a quelqu'un, il y a ces vents qui amènent des poussières qui sont considérables. Est-ce qu'ils étaient préoccupés par ce problème?
Alors, essentiellement, leur objectif, c'était d'essayer de faire précipiter les nuages avant qu'ils n'atteignent le stade des Jeux Olympiques. Donc, ils ont semencé les nuages pour essayer de les faire précipiter. Maintenant, c'était des opérations sans réelle évaluation scientifique, parce que vous pouvez pas sur une période de 15 jours, quelquefois il a plu, quelquefois il n'a pas plu, est-ce que c'était associé à leur système, est-ce que c'était pas associé à leur système, on n'en sait rien. Bon, en fait, moi, à l'époque où j'étais justement, je faisais partie du groupe d'experts de l'Organisation Météorologique Mondiale, je travaillais avec le représentant chinois, avec le représentant soviétique, etc., ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas, d'ailleurs, même eux, les responsables scientifiques ne croyaient pas forcément à des résultats. Il faut voir que très souvent, ce type d'opération est plus politique que scientifique. Après, scientifique, on essaye effectivement, il y a des choses qu'on ne sait pas, on essaye d'évaluer, on essaye d'améliorer, on va doucement, quoi. Après, quand vous avez des politiques qui prennent les choses en main, ils veulent des résultats tout de suite. Donc si on dit peut-être qu'on est capable de faire ça, tout de suite, ils veulent des résultats, ils vont mettre 40 000 personnes alors que simplement pour montrer qu'ils ont fait quelque chose. C'est pas...
Merci. D'autres questions, oui.
Je voudrais juste savoir si vous avez eu des études sur la modification du temps à cause des contraintes, notamment quand on forme un effet valse-plein.
Oui, alors effectivement, il y a des études là-dessus parce que il y a de plus en plus de contraintes. Alors les contraintes, c'est les nuages qui se forment derrière les avions. Hein, c'est, Donc, lorsque vous avez des avions qui passent, très très souvent, on voit des traînées, hein, des nuages qui se forment, qui sont des nuages de type cirrus, qui peuvent disparaître très rapidement ou qui peuvent au contraire se développer. Et comme il y a de plus en plus d'avions, eh bien, il y a effectivement de plus en plus de contrails, de traînées d'avions. Et c'est quelque chose qui est relativement étudié aujourd'hui. Alors, ça a un effet non négligeable, mais qui a quand même rien à voir encore aujourd'hui avec l'effet, par exemple, du gaz carbonique. Hein, c'est pas, mais il y a des études qui sont faites et des études à travers lesquelles, justement, on essaye de voir comment on peut, par exemple, faire passer les avions dans des zones où ils risquent de créer le moins de nuages de ce type. Alors, il y a toute une polémique, une théorie des complots qui s'est développée à ce propos, parce que aujourd'hui, les gens qui voient ce type de nuages, il y en a un certain nombre qui pensent que ce ne sont pas des nuages, mais que ce sont des produits chimiques qui sont envoyés par les avions. Donc il y a une théorie du complot là-dessus. Les gens disent, mais oui, mais c'est pas normal. Parce que normalement, un nuage qui fait derrière un avion, ça doit disparaître tout de suite. Et si ça ne disparaît pas tout de suite, c'est parce que ce n'est pas des nuages, c'est des produits chimiques. Alors, je ne sais pas, quelqu'un doit vouloir nous polluer. Mais l'explication, elle est relativement simple aussi. Les nuages, les cirrus, sont des nuages qui ont beaucoup de mal à se former. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la difficulté des molécules qui sont dans la goutte d'eau de se transformer en molécules de prendre l'organisation d'un cristal de glace. Bien, c'est la même chose pour la vapeur. Quand vous avez un ciel relativement clair comme ça et que vous avez de la vapeur en altitude, ces molécules de vapeur ont beaucoup de mal à se mettre ensemble pour former un cristal de glace en altitude. Et quelquefois, ben, elles vont pas, si elles n'ont pas la bonne poussière, elles ne vont pas réussir à se mettre ensemble pour former le cristal de glace. Et quand un avion va passer, eh bien, il va perturber énormément cette atmosphère. Pourquoi il va perturber l'atmosphère? D'abord parce que vous avez une forte dépression derrière les ailes, derrière le réacteur. La dépression, ça crée du refroidissement, donc il y a un fort refroidissement. Et puis, derrière les réacteurs, vous avez aussi des poussières, des résidus, des poussières de carbone, des résidus, etc. Vous avez de la dépression. Donc, le refroidissement, la perturbation, les poussières font que ça va favoriser la formation des cristaux de glace à partir de la vapeur qui se trouve dans l'environnement. Et une fois que les cristaux de glace sont formés, là, à ce moment-là, ils peuvent avoir une durée de vie relativement importante si on est dans des conditions qui sont favorables à la formation de la glace. Si on est dans des conditions qui ne sont pas très favorables à la formation de la glace, les cristaux de glace vont se dissiper très très vite. Si on est dans une situation où la glace aurait envie de se former mais elle n'y arrive pas toute seule, à ce moment-là, le passage de l'avion peut suffire à former un nuage qui va s'étendre, qui peut finir à partir d'un seul avion, ça peut finir à s'étendre sur l'ensemble du ciel. Donc on n'est pas dans des produits chimiques qui sont envoyés par des avions de ligne, on est dans un système qui est tout à fait normal. Maintenant, le phénomène que vous mentionnez est quand même important dans le sens où, comme il y a beaucoup plus d'avions, il y a beaucoup plus de ce type de nuages, et donc il y a un impact sur la quantité de lumière qui atteint le sol. Mais donc cet impact est étudié et il y a un certain nombre donc d'analyses qui sont faites pour essayer de réduire l'impact et de voir quelle est son amplitude.
Merci. Autre question. Donc vous voyez que c'est de la belle physique tout ça.
Vous avez beaucoup d'expériences étrangères. Alors en France, qu'est-ce qui se fait en matière de recherche et sur le reste, c'est des choses qui se font. Oui.
Alors bon, en France, à une époque, il y a un projet dont je n'ai pas parlé. C'était le météopont. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En France, ça devait être en 1960-61, un truc comme ça, après avoir observé en Afrique qu'au-dessus des brousses, quelquefois, quand il y avait un feu, il y avait des petits nuages qui se développaient. Il y a un certain nombre de personnes au laboratoire à Lannemezan qui ont décidé de fabriquer un météotron. Alors un météotron, c'était un système qui brûlait à peu près 1000, il y avait une centaine de brûleurs de fioul. On devait brûler à peu près 1000 litres de fioul à la minute. Et donc, ça crée un immense puits de chaleur qui était supposé donc faire des nuages. Alors, quelquefois, on a pu voir un petit nuage blanc se former, mais ça faisait surtout de la pollution. Le système a été relativement vite abandonné. Au niveau de Météo France, ce qu'on considère aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai bien montré à travers tout ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on comprend assez mal. Que les hypothèses qui sont avancées, c'est des hypothèses qui sont quelquefois un peu simplistes, c'est-à-dire que les systèmes réels sont tellement complexes que c'est les hypothèses qu'on avance, elles ne peuvent pas tenir compte de tout. Donc quand on dit que si on fait ça, il va se passer ça, on n'en est pas vraiment sûr. Donc le point auquel on en est, c'est de se dire que vraiment, on a intérêt plutôt à essayer d'étudier les systèmes, de mieux comprendre ce qui se passe dans un nuage, dans une précipitation, par l'observation, par la simulation, plutôt que de se lancer aujourd'hui dans des opérations aveugles où on essaierait d'ensemencer des nuages pour augmenter la pluie et réduire la pluie. Donc on est vraiment dans une période encore scientifique où on veut mieux comprendre les choses avant d'imaginer qu'on pourrait faire quelque chose pour modifier la nature.
Il y a une question qui n'a pas été posée, mais qui a été soufflée, si j'ose dire. On ne sait pas grand-chose, peut-être. Y a-t-il des recherches mises d'ailleurs sur ce sujet?
Oui, alors, bon, il est évident qu'il y a beaucoup d'opérations au départ qui ont été menées par les militaires en particulier, par exemple sur les opérations sur les brouillards. Il y a eu à une époque pas mal d'opérations pour, alors non pas pour dissiper les brouillards, mais au contraire pour créer des brouillards pour pouvoir masquer un certain nombre d'équipements. Il y a eu des opérations pour l'atterrissage, par exemple, c'est des opérations militaires, essayer de dissiper les brouillards pour faciliter l'atterrissage. Il y a eu des opérations, alors aussi bien par les militaires français, d'abord en Indochine, et puis ensuite par les militaires américains au Vietnam, où on essayait de, où on s'était dit qu'on allait inonder les troupes vietnamiennes pour essayer d'empêcher leur déplacement, etc. Donc il y a eu des opérations où on a effectivement... alors je ne suis pas sûr que les opérations françaises aient été menées très loin, mais après les opérations américaines ont effectivement eu lieu. C'est un projet qui s'appelait, je crois, Popeye, qui... c'est un projet qui s'appelait Popeye, dans lequel effectivement les Américains ont fait des ensemencements en essayant d'empêcher le déplacement des troupes vietnamiennes. Mais ce ne sont pas des opérations qui ont eu réellement un retentissement important et des résultats probants.
Mais il y a un accord maintenant des Nations Unies sur l'interdiction des applications militaires de l'application du pain.
Exactement.
Je pense qu'on pourrait laisser à Michel Sicard plaisir de la dernière question.
Oui. Vous nous avez présenté le magnifique panorama de travaux très empiriques, mais on se demande s'il y a des recherches au niveau physique nucléaire, physique atomique, physique moléculaire de tout ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de technologie suffisamment élaborée pour y arriver au niveau expérimental, mais dans les laboratoires de recherche fondamentale?
Oui. Alors, si vous voulez, le problème un peu qu'on a dans les nuages, puisqu'on parle de modification de nuages, c'est qu'il n'y a pas de nuages qui se comportent de la même façon, un peu comme les individus, je ne sais pas. Et donc le même procédé sur deux nuages qui se ressemblent va amener des résultats, des conséquences qui peuvent être absolument opposées. Et alors il est extrêmement difficile de connaître, un nuage ça paraît simple, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, que les gouttes d'eau par exemple se formaient sur des poussières. Et les gouttes d'eau que vous allez rencontrer dans un nuage, eh bien, vont être totalement différentes suivant le nombre de poussière que vous avez, mais suivant aussi la composition de la poussière. Est-ce que c'est une poussière, est-ce que c'est un sel, est-ce que c'est une particule de sulfate, est-ce que c'est... Si bien que, et quand vous avez un nuage qui se forme à un endroit, il va profiter de toutes les poussières qui sont dans l'environnement, mais le nuage qui arrive derrière au même endroit, il n'a plus les mêmes poussières. Donc il va être complètement différent. Donc on se retrouve devant des structures qui sont extrêmement complexes. Alors quand je peux donner l'impression qu'on ne comprend rien, en fait on sait des tas de trucs sur les. On sait des tas de choses sur la formation des nuages. Mais pas suffisamment pour réellement comprendre ce qui se passe quand on va mettre notre dinde de sel là-dedans. Et quelquefois le nuage. Quelquefois le nuage est tellement puissant et tellement violent que même on sait qu'on pourrait mettre un grain de sel, 10 graines de sel, ça ne ferait rien. Donc ce qu'on va chercher plutôt, c'est s'il existe des nuages qui se trouvent en équilibre. Vous savez, un peu comme l'avalanche, quoi. Quand déplacer des milliers de tonnes de neige, c'est difficile. Sauf si vous êtes dans une région où il y a un risque d'avalanche, là vous pouvez un skieur, une biche, ça suffit. Et donc on va plutôt essayer de rechercher ce type de nuage, qui n'est pas très fréquent. Je ne suis pas sûr d'avoir totalement répondu à votre question, mais j'ai surtout essayé d'expliquer quelle est la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, vu la complexité des nuages qui va bien au-delà de simplement leur forme physique, la quantité de d'eau qu'il y a à l'intérieur, leur courant, il y a beaucoup plus de complexité que ça.
On peut peut-être aussi compléter en disant que même si on connaît la microphysique parfaitement, on ne sait pas l'appliquer à l'électre. Au bon endroit, dans mon nuage, quelque chose qui sera bien. Bien, je crois qu'il me reste à remercier en votre nom Jean-Pierre Chalon. Et remercier aussi la Société d'énergie de France, Météo et Climat, qui a fourni son écho aujourd'hui, si j'ose dire. Et signaler donc que Jean-Pierre Chalon est venu avec quelques exemplaires de ses livres, qui peuvent vous intéresser.
Je vais prendre un peu de suite. Si vous permettez.